Les podcasts d'AFDS.TV. Les chroniques d'Aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Série Crédios, Sarah Sepulcre, Nathanaël Picasse.
Sarah, je m'inquiète parce que là, je suis en train de regarder la jaquette de la série dont tu vas nous parler. Et donc, en fait, tu vas nous parler d'une série parce que je vois qu'il y a un contrôleur fiscal, visiblement vu son petit impair, et un gars qui a un goût douteux au niveau vestimentaire puisque je vois qu'il a une chemise avec un revolver imprimé sur la chemise.
Mais c'est pas du tout douteux. Les scénaristes français, on leur a dit, votre personnage doit être cohérent. Ils ont un personnage de flic, il habille avec un t-shirt de revolver et puis voilà. C'est pas douteux, si ?
Oui.
Et l'autre, c'est un flic, hein, c'est pas un contrôleur fiscal.
Ah, effectivement, je vois un revolver accroché au niveau de sa taille. Pardon, je l'avais pas vu, donc ça, je me disais aussi. Bon, très bien, dis-nous en plus.
Bon, en même temps, on parle de Crénios. Hein. Quel est le premier indice qu'une série risque d'être un Crénios ? Le titre. Et il faut avouer qu'avec Duval et Moretti, ça commence bien. Ça fait un peu Tequila et Bonetti, sauf que dans Tequila et Bonetti, l'un des deux est un chien et est donc excusé d'avoir un nom à la con. Dans Duval et Moretti, pas de chien, juste deux flics. On comprend la raison du titre quand on est attentif au générique où il est stipulé que la série est, je cite, d'après Starsky et Hutch. Eh ben oui, Starsky et Hutch, Duval et Moretti. Sauf que n'est pas Starsky et Hutch qui veut, et n'importe quelle Mazda rouge ne vaut pas une Ford Torino 1964. Oui, parce que pour bien souligner que c'est inspiré de Starsky et Hutch, on sort une voiture un peu rutilante, rouge donc, et pour bien appuyer la chose, les 10 premières minutes de la première séquence consistent à lui faire faire des dérapages dans tous les sens. Un peu comme dans le générique de Starsky Hutch, un peu, mais juste un très 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 peu alors. Vous noterez au passage qu'ils sont capables de faire des cabrioles de fou au milieu des carrefours, mais qu'ils se garent comme des branques le reste du temps, c'est-à-dire de travers, à moitié sur le trottoir alors que la rue a manifestement été vidée pour le tournage. Dernière précision concernant cette voiture qui n'avait rien demandé à personne. Chaque fois qu'elle apparaît, elle est accompagnée de la musique du générique encore plus Crénios que la série, musique composée par Sinclair, que dire d'autre. Duval et Moretti, c'est aussi le genre de série où on ajoute du suspense et des rebondissements, comme les vieilles dames ajoutent encore un peu de parfum. Alors qu'on vient de se manger 10 minutes de dérapage en Mazda rouge, on atterrit chez un mafioso qui doit être protégé parce qu'il veut témoigner. Quand les deux protagonistes arrivent chez lui, il est à genoux, ligoté, avec une bombe scotchée sur le torse. D'abord, les mises en scène qui fleurent bon les maîtres du mal, genre les mystères de l'Ouest, ça ne fait pas très mafia. D'habitude, pour se débarrasser d'une balance, c'est plutôt une balle à la base du cou. Mais soit, on va dire que la mafia a été très inspirée pour une fois. Alors, je vous passe les pierres, papier, ciseaux pour savoir qui ouvre le boîtier de la bombe et qui déconnecte le fil rouge. Ah ! Rien ne se passe. Pierres, papier, ciseaux pour savoir qui tire le bleu. En fait, non, c'est pas pierre, papier, ciseaux, mais l'un des deux, Duval ou Moretti. De toute façon, on ne sait jamais lequel est lequel. Le bouclé, donc, dit « Ah non, moi j'ai assez donné, je ne tire pas le deuxième. Genre, je vis un super stress, à toi maintenant. » Sauf qu'il reste juste à côté et que si ça pète, qu'il ait tiré le fil ou non, il n'y aura plus de vivant pour compter les points. Finalement, il suffit de tirer tous les fils et la bombe s'arrête. Elle est vraiment de plus en plus inspirée, la mafia. Il leur reste donc à sortir avec le type et heureusement, le sniper chargé de le tuer au cas où les flics sont assez malins pour tirer tous les fils de la bombe n'est pas capable de tirer, même avec un super fusil, avec visée et tout et tout. Je vous le disais, c'est le genre de série à savoir doser les rebondissements. Et avec tout ça, on n'est même pas au cinquième du pilote. En clair, le plus gros problème de Duval et Moretti, c'est qu'on n'y croit pas une seconde. Les scénarios sont débiles, les dialogues sont miteux, les poncifs sont vraiment stéréotypés, du genre quand le méchant chef de la mafia chinoise, oui, il y a vraiment beaucoup de mafia dans la série, quand le méchant chef de la mafia chinoise rit, ses hommes rient après lui, comme dans tous les bons films avec de bons gros méchants affreux, affreux. Les situations ne sont pas du tout crédibles. Par exemple, au deuxième épisode, l'un des deux, Duval ou Moretti, de toute façon, on ne sait jamais lequel est lequel, le pas bouclé donc, manque de mourir. On lui a tiré dessus et il est dans le coma. Sauf qu'on sait qu'il va s'en sortir. On est au deuxième épisode, c'est malin. On n'aurait jamais vu un héros aussi vite remplacé, dis donc. Donc c'est un épisode gâché pour rien. Surtout qu'on a droit au monologue de son coéquipier, le bouclé donc, qui est à son chevet et qui se rappelle qu'il avait promis de s'occuper de sa femme au cas où. Comment voulez-vous qu'on croie à l'amitié, à la vie, à la mort de ces deux-là ? On les connaît depuis un seul épisode où ils ont passé leur temps à faire des dérapages en Mazda rouge. Il faut bâtir les amitiés sur quelques épisodes avant que les téléspectateurs y croient. Et il faut bien dire que ces deux-là ont l'air d'être aussi potes que Buffy et Cordelia dans la première saison de Buffy contre les vampires. Ça aide pas vraiment à faire passer les monologues très mollo dans la voix pour des moments cultes. et les éléments plus techniques ne font rien pour arranger la situation. Par exemple, on ne cesse de se dire « Tiens, c'est un drôle d'éclairage dans cette séquence ». Vous serez d'accord avec moi, quand on regarde une série, si on ne cesse de repérer que l'éclairage est foireux, c'est qu'il l'est et qu'en plus, rien d'autre n'accroche vraiment pour qu'on ait le temps de s'intéresser à l'éclairage. Au rayon technique, donc, on a un abus de ralenti et d'accéléré bruyant, du genre « Pchit !» J'ajoute un effet sonore nullos sur le ralenti ou l'accéléré, histoire que les téléspectateurs comprennent que c'est un truc de ouf. Le jeu des acteurs n'est pas tout à fait puissant. Rebecca Hampton joue comme dans Plus belle la vie, si on peut le lui pardonner quand elle incarne Céline Frémont dans Plus belle la vie. Et encore, ça devient moins bien quand c'est le rôle du commissaire. Des scènes de bagarre sont juste risibles, on dirait des scènes tirées d'un bioman mal joué, c'est dire. Enfin, les décors sont nuls, je ne sais pas comment ils font. On regarde Fringe ou Esprit criminel ou Le Mentaliste et on achète les grandes vitres en verre, le mobilier en bois sombre. Mais on regarde Duval et Moretti et on pense au catalogue Ikea. Je ne sais pas comment ils font les Américains pour que ça passe mieux, mais ça passe mieux. Bref, on a vu mieux, et en même temps, je n'ai aucune excuse. Regarder une série dont l'un des acteurs porte une chemise avec un revolver sur la manche sur la jaquette du DVD, c'est un peu synonyme de chercher des ennuis.
Ah ! Je viens de voir sur le 5e DVD qu'il y a Magloire qui joue dans la série, tu n'en as même pas parlé.
Ben non, tu crois pas que c'était déjà suffisant comme ça ?
Là, on savait que c'était un truc craignos déjà, il a joué dans Is No Good.
Oui, oui, mais tu vois, j'aurais dit ça, et puis la chronique était finie.
Cette jaquette est forte en information parce qu'il y a aussi une paire de menottes, et on voit qu'il y a les deux personnages avec un D dans le dos et l'autre avec un M. Tu aurais pu savoir qui est Duval et qui est Moretti. Tu n'as pas regardé la série jusqu'au bout.
C'est vrai.
Les podcasts d'FDS.TV aux frontières des séries.